signe des temps. Marc Wetzmann.
Et bonjour à tous. La discipline historique se trouve aujourd'hui prise en tenaille. D'un côté, les tenants du roman national pour qui l'histoire n'existe pas sinon sous forme d'une identité éternelle qui déclinerait en ligne droite la formation de l'État-nation, par exemple en France, les Capétiens, Robespierre, Napoléon et De Gaulle. De l'autre, les tenants d'une approche décoloniale pour qui la notion même d'histoire objective avec ses prétentions universalistes héritées des Lumières ne serait en réalité que le produit d'un Occident colonial aux prétentions dominantes. Et d'un autre côté encore, la remise en cause des faits, ou de la notion même de faits plus exactement, à la fois par l'idéologie et par les technologies. Comment préserver l'histoire entre ces différents écueils? Comment retrouver une science réellement universelle? Après son enquête magistrale « Race et histoire dans les sociétés occidentales » écrite avec Sylvia Sebastiani en 2021, c'est le sujet de réflexion du nouveau livre de Jean-Frédéric Chaube. Nous avons tous la même histoire, les défis de l'identité. Bonjour Jean-Frédéric Chaube.
Bonjour Marc Wetzmann.
Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes spécialiste de l'histoire moderne de la race et de la colonisation. Vous aviez écrit avec Antoine Hilty et Sabrina Loriga, si j'arrive à me relire, l'expérience historiographique autour de Jacques Revel en 2016. Et vous avez donc écrit, je viens de le dire, avec Sylvia Sebastiani, « Race et histoire dans les sociétés occidentales » chez Albin Michel en 2021. Et ce nouveau livre qui sort en ce moment, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une première question. Il est dédié à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Pourquoi ?
Il est dédié à Samuel Paty et Dominique Bernard, d'abord parce que ce sont deux collègues qui ont été assassinés, que je pense que leur métier est ce qui est le plus important, sans doute, sur l'éventail des professions de l'enseignement. Également parce que je pense que notre société est extrêmement oublieuse et que je souhaite que le souvenir de ce qui est arrivé à Samuel Paty et Dominique Bernard continue d'être présent à notre esprit. Et finalement, parce que je pense que autour de ces deux tragédies se noue quelque chose comme la prise de conscience qu'il existe un projet politique en France et ailleurs autour de l'islam politique et que ce qui leur est arrivé a partie liée avec ce programme politique.
Alors, ce programme politique remet notamment en cause la question des Lumières et donc l'héritage, mais votre livre va au-delà de ça, puisque vous essayez de faire le point sur la notion d'histoire avec un grand H aujourd'hui. Il y a plusieurs éléments. Il y a d'une part le contexte historique, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'on est en 2024, pratiquement 15 ans après la fin de la guerre froide et après la fin de la définition de l'histoire telle qu'on l'a vécu pendant très longtemps, qui est pratiquement depuis la Révolution française, qui est une définition en gros hegelienne, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un progrès, que l'histoire a un sens, qu'elle va quelque part. C'est là-dessus, en fait, que s'est appuyée pratiquement toute la discipline historique moderne, non ? Il me semble.
Oui, et on peut dire que la professionnalisation du métier d'historien est très étroitement liée à la construction constitutionnelle de l'État-nation comme entité souveraine. Ces deux phénomènes, ces deux processus sont totalement indissociables. Alors il est vrai qu'à partir du moment où on considère que, pour l'essentiel, la construction politique de l'État-nation en tant qu'entité souveraine est acquise, d'une certaine manière, les historiens peuvent s'autonomiser de leur participation à ce processus de constitution d'un nouveau type de souveraineté. Et c'est au fond le développement de toute cette historiographie critique tout au long du XXe siècle. C'est-à-dire que je pense que le découplage ne s'opère pas seulement depuis la chute du mur, mais s'opère en réalité depuis, en tout cas pour ce qui est notre pays, dès la consolidation de la Troisième République. D'où le fait qu'une historiographie critique, plurielle et très inventive a été possible tout au long du XXe siècle. Vous savez, il y a beaucoup d'innovations qui sont présentées comme d'avant-hier, comme très récentes et qui, en réalité, s'enracinent dans une capacité d'invention très ancienne.
Alors, on est passé en tout cas de cette, on est passé à une fragmentation maximale. Je parlais tout à l'heure du roman national. On va en parler dans un instant. Il y a aussi l'école décoloniale et puis il y a tout simplement la technologie. On l'a vu récemment avec Gemini aux États-Unis, la diffusion de sur requête à Gemini, l'intelligence artificielle de Google, la diffusion d'images soi-disant historiques montrant ce que c'est qu'un pape, en l'occurrence une femme, George Washington en noir, des nazis des noirs en uniforme nazi pour montrer la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale, tout ça étant le fruit d'un algorithme qui essaye d'être au maximum
inclusif.
Et c'est, ça a donné lieu aux États-Unis à une sorte de débat, mais un débat qui a été traité avec des pincettes par la presse. On a vu le Washington Post presque justifier, ou en tout cas comprendre, que des images comme ça puissent passer pour des documents historiques.
Alors, oui, comme je l'indique dans l'ouvrage, le corps enseignant aujourd'hui s'alarme du fait que les intelligences artificielles génératives constituent des outils d'aide à la rédaction. D'ailleurs, les journalistes aussi se posent naturellement cette question et cherchent des moyens de repérer l'usage de cette aide à la rédaction dans les travaux produits par les étudiants, alors qu'il me semble que un problème infiniment plus dangereux sur le plan démocratique est celui que vous venez de pointer, c'est-à-dire le fait que les intelligences artificielles génératives peuvent produire des documents historiques faux. Entièrement faux. Donc le problème n'est pas de savoir si tel et tel étudiant s'est aidé de ChatGPT pour bien écrire son papier de fin de semestre, mais de savoir si le discours du général de Gaulle qu'il cite dans son mémoire ou dans son papier a jamais été prononcé ou produit par ChatGPT. Et là, le problème est absolument terrifiant.
Mais c'est pas juste qu'ils sont faux. C'est-à-dire qu'ils sont, pour prendre l'exemple de ces images, ils sont faux dans un contexte donné. C'est-à-dire que, je veux dire par là que, ils sont faux, mais ce sont des images et des documents qui sont fabriqués pour correspondre à un contexte donné. C'est-à-dire que c'est des documents qui sont en fait présents. L'histoire est présentifiée, est mise au goût du jour de ce qu'on est supposé attendre en fonction des débats du présent, en fait.
Oui, alors on peut dire d'un certain point de vue que ces intelligences artificielles rendent particulièrement aiguë et particulièrement impressionnante ce qui a en fait existe au fond un peu toujours, c'est-à-dire que chaque période historique, malgré tout le travail critique, toute la certification dont les historiens sont capables, imprime sa marque, ses biais, ses interrogations sur la manière dont on décrit le passé. Le problème étant que les moyens électroniques qui sont à la disposition aujourd'hui font que ces biais deviennent une véritable tyrannie.
Alors, pour rentrer dans le vif du sujet de votre livre, vous commencez par poser la question de la notion même d'histoire et de l'universalisme. Vous entrez dans une discussion avec le camp décolonial et l'accusation d'européocentrisme et d'occidentalisme qui est faite à l'histoire. Et vous dites, c'est effectivement une des grandes contradictions du camp décolonial à l'université. Vous dites, si une institution européenne a colonisé le monde, c'est bien l'université dans sa conception intellectuelle, administrative et matérielle, jusque dans la forme de ses bâtiments et dans ses codes sociaux adoptés désormais en mains en qui a été adopté partout, en fait. C'est-à-dire que On a là un premier problème.
Oui, ce paradoxe, il est particulièrement frappant si l'on tient compte du fait que, au sens propre du terme, le mouvement universitaire décolonial est né en Amérique latine, d'abord en Colombie, puis dans d'autres pays latino-américains, autour de plusieurs notions, notamment comment dire, des néologismes comme la colonialité du pouvoir et d'autres, mais aussi autour d'une notion un peu plus tardive qui est celle d'épistémicide, c'est-à-dire l'idée que la conquête européenne de territoires non européens a eu pour conséquence de réduire à néant la capacité pré-contact des sociétés à produire elles-mêmes et selon leurs propres paramètres des connaissances. Bon, il se trouve que quand on observe d'un peu près ce qu'a été la trajectoire intellectuelle des tenants du mouvement décolonial en Amérique latine, ce qui les caractérise, à mes yeux, c'est le fait que aucun d'entre eux ne s'est donné la peine d'apprendre une langue autochtone. Mmh. Ni le nahuatl, ni le maya yucatec, ni le tupi guarani, ni le quechua, etc. Sachant que certaines de ces langues ont commencé à être translittérées au moment de la conquête et qu'on a donc des traces textuelles de la langue nahuatl ou du maya yucatec qui remontent à 500 ans maintenant. Et donc là, il y a une contradiction extrêmement forte, c'est de dire les Européens, c'est abominable parce qu'ils ont écarter un savoir pré-européen, mais ceux-là même qui disent cela ne font absolument pas partie des gens qui s'attachent à essayer de comprendre dans leurs mots ce qu'a pu être l'univers mental des gens dont on dit que leur univers a été réduit à néant.
Vous dites en France, il vaut mieux être spécialiste de la présence française en Inde, en Chine ou en Afrique pour décrocher un poste à l'université plutôt que de présenter un profil d'indianiste, de sinologue ou d'africaniste.
Oui, mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire que pour pouvoir parler, une chose est de pouvoir parler, et c'est très respectable, hein, de l'Indochine en ayant en main uniquement et exclusivement des archives de l'administration française du Tonkin, de la Nam ou de la Cochinchine. Autre chose est de se donner la peine d'apprendre le vietnamien et d'essayer de retrouver avant et après l'abolition des idéogrammes de l'écriture vietnamienne. Bon, c'est pas du tout le même type d'effort de capacité à sortir de soi. Hein. Apprendre le chinois, c'est une affaire qui prend à n'importe quelle personne normalement constituée une dizaine d'années.
Oui, voilà. Ouais. Non, mais je me suis demandé en lisant ça si c'était pas une des raisons pour lesquelles il y a tellement de culpabilité intégrée au sein des gens qui travaillent sur les questions décoloniales, parce qu'ils n'ont à leur disposition que les archives françaises en fin de compte, donc ils restent imperméables jusqu'à un certain point aux contradictions internes des sociétés colonisées elles-mêmes, c'est-à-dire qu'ils voient pas nécessairement
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il est fait reproche aux puissances occidentales d'avoir encapsulé dans l'archive coloniale un certain nombre de réalités des territoires colonisés. Donc, c'est quelque chose qui est dénoncé en tant que tel. Mais pour pouvoir aller au-delà de cette dénonciation, encore faut-il pouvoir accès à l'expérience des personnes soumises à l'administration coloniale et qui avaient leur propre langue maternelle.
Mmh. Oui, non, je pense un exemple auquel je pense, c'est par exemple l'Algérie où quand on réfléchit au statut indigène en Algérie qui a généré des catastrophes sur le terrain. On ne creuse jamais, par exemple, le rôle des élites musulmanes dans la formation du statut. C'est exactement, on ne voit qu'un seul pan du problème.
Oui, alors là, d'un côté, on peut dire que le cas algérien est pour nous en France, évidemment, le cas le plus important, dans la mesure où il y a quelque chose de mimétique dans l'organisation administrative de l'Algérie coloniale avec la métropole, un mimétisme qui n'existe pas dans le reste de l'Empire, mmh. ni en AOF, etc., et qui fait que l'exclusion politique de l'immense majorité des musulmans d'Algérie constitue, au sens propre du terme, une forme d'apartheid. Ça ne fait pas de doute. Maintenant, pour aller dans le sens de votre remarque, une chose qui me paraît très importante à souligner, c'est que il y a une dramaturgie du fait colonial qui consiste à dire que pour tout ce qui n'est pas l'Europe, il y a deux moments historiques, avant et après la colonisation. Cette manière de scander l'histoire passe sous silence un élément que vous avez vous-même suggéré, c'est-à-dire que, d'abord, ça n'existe pas la colonisation sans collaboration des sociétés autochtones ou d'une partie des sociétés autochtones contre une autre partie des sociétés autochtones. C'est pas possible. Hein, c'est le fameux cas des 30 000 fonctionnaires de l'Empire britannique qui contrôlaient l'Inde, l'équivalent de l'Inde, le Bangladesh et le Pakistan d'aujourd'hui. Donc, il y a cet effet de collaboration, ce qui fait d'ailleurs que ça restitue aux populations précoloniales leur propre capacité d'agir,
oui,
c'est-à-dire de collaborer avec l'occupant, avec le conquérant. Et puis, dans certaines régions du monde, on peut apporter la démonstration que les colonisateurs se sont appuyés sur des familles qui étaient déjà puissantes avant la colonisation, qui n'ont cessé de l'être pendant la colonisation et qui ont formé les équipes de ministres après la décolonisation. C'est-à-dire qu'il y a une continuité sociale d'un certain nombre de groupes, de familles, de réseaux qui ont traversé le précolonial, le colonial et le postcolonial. Et donc ça invite quand même à ne pas se laisser totalement enfermer dans une histoire fragmentée qui voudrait qu'il y ait une sorte de pureté précoloniale, d'infamie coloniale et de restauration de la pureté postcoloniale. Ce type de dramaturgie peut avoir une utilité politique que je ne nie pas, mais comme historien, l'inconvénient que j'y trouve, c'est que ça interdit de comprendre des continuités qui étaient en fait très fortes.
Et à ça s'ajoute le fait que très souvent, les élites des mouvements d'indépendance ont été formées, en particulier en France,
en
Algérie par exemple, par le colonisateur. Ont intégré les idéaux des Lumières qui sont ensuite critiquées.
Pour moi, le cas de ce que vous dites le plus exemplaire est certainement le cas de Frantz Fanon, qui, de mon point de vue, est un auteur majeur, qui occupe une place très importante dans les ressources intellectuelles que je mobilise moi-même quand je travaille sur la race. Or, le discours de Fanon consiste à dire une chose que je crois très profondément vraie, c'est que ce qui, dans la situation coloniale, est inadmissible et profondément pervers, c'est de faire passer une situation de guerre pour une situation de paix. Ça, c'est extrêmement fort et extrêmement puissant. Ce qui amène Fanon à dire une chose avec laquelle je crois qu'on ne peut pas ne pas être d'accord, c'est quand il dit il n'y a rien à négocier dans le processus de décolonisation, parce que le processus de décolonisation, qui est un processus national et non pas culturel, est un processus dans lequel on ne peut exiger que tout. L'intégralité de la souveraineté, sans aucune élément, disons, de barguignage. On peut rien négocier. Et je pense que le point de vue de... Et donc, il le formule comme ça. Ce que veut l'agent politique engagé dans la décolonisation, c'est tout. Or, ce discours-là, c'est le discours de Sieyès, de 1789. Le tiers-État veut tout.
Oui.
Et donc, il y a un mimétisme de Fanon par rapport, en fait, à un discours qui est celui des Lumières tardives, qui me paraît frappant.
Oui, qu'on retrouve, par exemple, dans le discours d'Aimé Césaire de 56 que vous citez, qu'il me suffise de rappeler que c'est la Tunisie libérée qui supprime les tribunaux religieux et non la Tunisie colonisée, que c'est la Tunisie libérée qui nationalise les biens
à bout et
supprime la polygamie et non la Tunisie des colonialistes, que c'est l'Inde avec les Anglais qui maintient le statut traditionnel de la femme indienne et que c'est l'Inde débarrassée de la tutelle britannique qui fait de la femme indienne l'égale de l'homme. Entendu aujourd'hui, c'est doublement frappant parce qu'on voit aussi le contraire qui se passe.
Ce que veut dire simplement Césaire et qui est tout à fait vrai, c'est que le colonialisme français et le colonialisme britannique se sont appuyés sur les élites traditionnelles.
Oui, voilà, exactement.
De ce point de vue-là, Bourguiba est un vrai libérateur, est un doublement libérateur. C'est-à-dire qu'il libère la Tunisie de la France et il libère la Tunisie des traditions tunisiennes.
Ah oui.
Ser un hombre no hay nada de la vida.
Alors, Jean-Frédéric Chaube, nous avons tous la même histoire, les défis de l'identité. L'autre grand point de ce livre, c'est la réflexion sur la déconstruction du roman national à travers la réflexion sur le mythe de l'État-nation, ce que vous appelez. Et avant d'entrer là-dedans, je voudrais m'intéresser à un des éléments du livre sur lequel vous glissez un peu, enfin vous le suggérez sans aller vraiment au fond, c'est le cas particulier de la France là-dessus. Vous dites longtemps, la dimension coloniale s'est trouvée mal intégrée au cœur de l'histoire de France. Vous citez Desroulaides à Jules Ferry en 1885, après la perte de l'Alsace-Lorraine et l'acquisition des nouvelles colonies, qui dit « J'ai perdu 2 sœurs et vous m'offrez 20 domestiques ». Et de fait, oui, on a l'impression que contrairement à l'Angleterre, par exemple, au Royaume-Uni, il n'y a pas de culture impériale en France avant les indépendances, c'est quand même assez particulier. C'est comme si l'Empire n'avait commencé à exister dans l'imaginaire qu'après qu'il a été perdu.
Alors, là, c'est peut-être
un peu loin.
C'est peut-être pousser un tout petit peu le bouchon loin. Ce qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est que contrairement à la manière dont s'est constitué en France l'espace politique autour de la guerre d'Algérie et autour de la condamnation de la manière dont le gouvernement de Guy Mollet a conduit la guerre d'Algérie, ce qui s'est noué, c'est l'idée que au fond être de gauche, c'est être contre le fait colonial. Ce qui paraît une définition tout à fait pertinente à un certain moment, mais c'est oublier le fait que la geste coloniale, la conquête coloniale, en tant que processus volontariste d'émancipation, a été soutenue par l'aile gauche du spectre politique, justement à l'époque de Jules Ferry, disons de centre et de la gauche. Voilà, l'anticolonialisme de gauche est une réalité qui se forge progressivement, relativement lentement. Et qui finit par occuper, évidemment, devient hégémonique à gauche au moment de la guerre d'Algérie. Et ensuite, l'anticolonialisme n'abandonnera plus la gauche, évidemment, jusqu'à nos jours, ce qui est bien naturel. Mais c'est ça que la citation de Paul Desroulaides rappelle, hein, c'est-à-dire que ce qui compte, ce sont les deux provinces perdues et pas ces territoires au bout du monde, de l'autre côté de la Méditerranée, dont on n'a que faire lorsque un cœur de patriotes ne pense qu'à la Lorraine et à l'Alsace.
Alors, vous parlez du mythe de l'État-nation, hein, quand vous en prenez à l'idée du roman national, et c'est la grande idée du livre. Vous dites l'histoire doit essayer de comprendre ce qui détermine l'obéissance à l'égard du prince sous l'Ancien Régime. Vous diriez qu'on considère en général qu'il y a une sorte de raisonnement circulaire. On considère que l'État-nation s'explique par l'État-nation, en fait. C'est-à-dire que, dès le début, on sait que c'est ça qui va arriver, donc c'est contenu, la fin est contenue dans le début, en quelque sorte.
Oui, alors, je vous disais tout à l'heure que la professionnalisation du métier d'historien est corrélative au processus de constitution de l'État-nation comme entité souveraine au cours du XIXe siècle. Et en fait, les historiens français, d'ailleurs de plusieurs bords idéologiques, ont ceci de commun que ils ne peuvent pas penser autrement que en considérant la Révolution française comme une rupture majeure dans le fil du temps, et d'autre part que la légitimation des nouveaux régimes, d'autant plus nécessaire que, comme vous le savez, la France a connu beaucoup de constitutions, de coups d'État, de changements de régime au cours du XIXe siècle. La légitimation de l'ordre nouveau repose sur son enracinement dans une nation ancienne. Voilà, c'est ça cette dialectique là qui est à l'œuvre au 19e siècle et qui fait que on insiste en fait sur la très longue durée d'une nation française et l'innovation radicale en même temps que la France apporte au monde. Voilà, c'est les deux choses à la fois.
Alors, vous revenez sur la question de la légitimation du pouvoir. Vous soulignez un certain nombre de contradictions intéressantes. Vous dites que les théories sur le pouvoir absolu des rois, donc en gros Louis XIV, sont contemporaines d'une époque qui conçoit également le régicide comme une option politique. C'est un des grands mystères.
Oui, ben c'est-à-dire que effectivement, ce qui est difficile à comprendre, c'est d'observer le fait que justement un monarque comme Louis XIV a une capacité d'action qui est stupéfiante si l'on imagine que il est capable, par le biais de l'impôt et de la coercition, d'aligner une armée de 400 000 hommes, ce que Poutine ne peut pas faire aujourd'hui. Et en même temps que le régime dont il est la figure principale n'est pas un État. Sinon, c'est un ensemble de pouvoirs qui se coalisent dans une hiérarchie complexe, mouvante, et dont il est, à un moment donné, il est le bénéficiaire.
Vous dites que c'est pas un État, c'est-à-dire qu'en fait son pouvoir, en dehors de lever des armées, c'est essentiellement à ça que sert son impôt, ça et à entretenir Versailles et la cour. Et pour le reste, il est prisonnier d'une série de lois et de coutumes et de hiérarchies administratives dont vous dites qu'elles ne constituent pas un État à proprement parler.
Oui, Corneille, un des magnifiques alexandrins de Corneille, hein, c'est le roi juste et prudent ne veut que ce qu'il peut.
Ouais.
Vers qui n'a nullement fait l'objet de la moindre censure. Hein. C'est-à-dire que on est dans un type de société, mais en France comme en Espagne, comme en Angleterre, où un certain nombre de pouvoirs s'exercent dans la société et se combinent les uns les autres. C'est-à-dire l'Église de France et l'Église universelle de Rome sont des pouvoirs absolument considérables sur le plan politique, sur le plan doctrinal, sur le plan économique et financier, avec lequel la royauté compose, pour prendre un exemple.
Et donc la grande question, c'est d'où vient l'autorité dans un cadre qui est celui-là. Et ce que vous dites, c'est que en fait, l'autorité est plus qu'une affaire de domination. L'autorité incorpore une part de consentement. Hein. Vous citez Alexandre Koïev. L'acte autoritaire se distingue de tous les autres par le fait qu'il ne rencontre pas d'opposition de la part de celui ou de ceux sur qui il est dirigé, d'une part, et présuppose la possibilité d'une opposition et aussi le renoncement conscient et volontaire à cette possibilité. Donc, en d'autres termes, une forme de collaboration. Est-ce que vous en concluez que ce n'est pas en dépit de sa faillibilité, mais grâce à elle, que le monarque éprouve l'autorité qui lui permet d'exercer le gouvernement?
Oui, alors je sais que c'est une idée qui peut paraître paradoxale, mais elle est très simple à comprendre. C'est que si un roi ou n'importe quel autre acteur politique agissait toujours exactement conformément à la loi d'un côté et d'autre part exactement conformément à la foi, il serait la loi vivante et il serait un saint. Et en ce sens, lui obéir est la seule issue possible. Bon, l'autorité, c'est lorsque on incorpore à l'exercice politique la faillibilité. C'est-à-dire le roi, c'est pas un saint et ça n'est pas la loi vivante. D'abord parce que il ne se conduit pas bien. Il peut ne pas bien se conduire. À dire vrai, les chrétiens sont très habitués à l'idée que le monarque peut ne pas bien se conduire, puisque les chrétiens et les chrétiens doivent affronter l'idée que Dieu seul sait pourquoi il est acceptable que des enfants meurent avant leurs parents, que des gens innocents soient sacrifiés, etc. C'est-à-dire le caractère faillible de celui qui exerce la domination est un élément crucial de son autorité. Et c'est pour ça que, pour moi, il faut sortir, pour essayer de comprendre comment ça marche, de l'idée que c'est la Ve République au XIVe siècle. Mm-hmm. Parce que ça, mm-hmm, on est sûr de ne rien y comprendre. Et de fait, ce que j'explique dans le livre, c'est que je crois que c'est un gâchis, au fond, de raconter une histoire aux élèves du primaire pour ensuite la déconstruire dans le secondaire et encore plus à l'université. Je pense que c'est un mauvais mouvement, en fait. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, il me semble que ça n'est pas parce que Philippe Auguste se bat à Bouvines et élargit son domaine qu'il est l'inventeur du territoire national. Ça n'est pas parce que Saint-Louis ou Louis IX s'assied au pied du chêne de Vincennes qu'il invente la chancellerie, le ministère de la Justice. Et ça n'est pas parce que Philippe le Bel réduit à néant les Templiers qu'il est l'inventeur de la laïcité. Tout ça sont des blagues. Ça n'est pas du tout comme ça que les choses devraient être racontées. Et je plaide vraiment assez fortement dans le livre pour qu'on sorte de cette espèce de dilemme, c'est roman national, subjectivité des différentes identités qui composent la société d'aujourd'hui d'un autre côté. Je pense que c'est une impasse. Et en revanche, je reviens de fait à Dominique Bernard et à Samuel Paty, ce à quoi je tiens à rendre un hommage un peu vibrant, c'est que je trouve que nos collègues professeurs de français ont fait un travail absolument extraordinaire en 2022 autour du 400e anniversaire de Molière. Et ça, n'importe qui peut trouver ça en quelques clics sur YouTube, sur le site de la Comédie Française, etc. Éric Ruffoci a fait un travail extraordinaire, je dois dire. Et ce travail, ça a consisté à faire jouer des scènes de Molière à des dizaines de milliers de gosses de Perpignan à Dunkerque et de Brest à Menton, de toutes les catégories sociales, de toutes les origines ethniques, des gosses de cité comme les gosses de centre-ville, etc. Et ça, je dois dire, de mon point de vue, si l'on veut créer quelque chose, on veut créer du commun et que les gens aient envie, comme aurait dit Marc Bloch, de vibrer à quelque chose de français en France, c'est beaucoup plus de ce côté-là que je verrais les choses que de fabriquer une fausse histoire de France.
Dans la langue, en fait.
Dans la langue et dans les œuvres littéraires.
No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando, que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, olvidarte nunca.
Llorona, grand classique. Alors Jean-Frédéric Chaube, pourquoi c'est important cette histoire de formation du pouvoir, de légitimation du pouvoir du roi? Parce que c'est ce qui vous a conduit à étudier en fait la question de la race et de la colonisation. C'est en étudiant la formation du pouvoir. Et dans le bouquin, vous revenez sur les modes de légitimité, de légitimation du pouvoir, et vous dites en fait qu'il y en a. Vous en trouvez quatre. La gestion de la barbarie, c'est-à-dire le rôle de la colonisation dans le fonctionnement du pouvoir, et la gestion des populations, c'est-à-dire la faculté de classer les composantes de la communauté des sujets à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur du pays, il y a la colonisation. À l'intérieur, il y a le développement progressif du classement des populations qui conduira à ce que Foucault a étudié sur l'enfermement et des fous, des malades, etc. Et dans les deux cas, le développement de la cartographie va s'avérer crucial, stratégique, et la cartographie dont les progrès se font avec la colonisation, à travers la colonisation, et ensuite rabattu sur le territoire national. C'est ça, j'ai compris.
Oui, tout à fait. Et à dire vrai, la conquête en elle-même n'est absolument en rien une spécialité européenne. C'est-à-dire, l'idée à laquelle il faut immédiatement renoncer, c'est l'idée qu'une bonne écriture de l'histoire consiste à opposer l'Europe au reste du monde, hein, ou selon l'expression anglaise, the West and the Rest. Ça ne marche pas comme ça, tout simplement parce que le fait de conquérir des territoires et de les dominer, de les modifier, est une expérience commune à peu près à toutes les régions du monde, de manière endogène, sans qu'entre en jeu nécessairement la présence des Européens. Mais ce qui est spécifiquement européen, cette question générale de la conquête ou de la colonisation, mais c'est le fait que il y a eu une échelle franchie avec la conquête américaine, qui a, comme on le sait, eu pour effet d'abord un effondrement démographique inouï dans l'histoire, oui. Sans exemple dans l'histoire de la population autochtone amérindienne, et le trafic des esclaves africains en direction du système des plantations et des mines en Amérique. Et l'échelle de cette ingénierie sociale, elle, est extraordinaire à l'échelle de l'histoire humaine, de ce qu'on peut en connaître. Et de fait, comme vous le dites très justement, cette ingénierie sociale, elle s'appuie sur une capacité à catégoriser les populations, évidemment à les organiser pour les déplacer, pour les arracher à leur quotidien, à leur vie tout simplement. Et en même temps, et ça va ensemble, la capacité des administrations à produire de la connaissance sur ces populations, non pas par curiosité gratuite, hein, non pas par intérêt bienveillant, mais pour des raisons tout à fait concrètes, d'en tirer de la richesse, de mieux organiser les déportations, et ainsi de suite. Et donc c'est vrai qu'il y a une corrélation forte entre la production de connaissances, la capacité d'agir sur les populations et le renforcement de l'autorité politique. Là, ce triangle, on le voit très très bien fonctionner. Ma spécialité première, hein, n'est pas la France, mais plutôt l'histoire des sociétés ibériques et américaines. Et donc, et je pense que là, il y a un nœud très très fort qui s'est constitué et qui va exactement dans la direction que vous pointiez.
Et alors, contrairement à la vulgate actuelle qui veut qu'il y ait un capitalisme qui ait inventé le racisme et l'esclavage en même temps, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce que vous montrez dans cette espèce de dynamique de l'administration des populations, de la mise en place des déportations de populations, ce que vous montrez, c'est comment ça se fabrique petit à petit. Les premiers esclaves, par exemple, ne sont pas nécessairement noirs. Le racisme n'est pas consubstantiel ou à l'esclavage, c'est quelque chose qui va se fabriquer progressivement. On sait qu'aux États-Unis, par exemple, les premiers yeomen dans les plantations étaient des pauvres anglais, en fait, des gens déportés d'Angleterre, je veux dire, tout à fait blancs. Et le moment où le racisme se noue, c'est dans la péninsule ibérique autour entre 1391 et 1492, avec l'histoire des maranes et des juifs convertis, en fait.
Oui, alors, il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui. J'ai commencé par la fin, c'est-à-dire qu'en effet, il y a quelque chose de matriciel dans ce qui s'est passé en Espagne. En effet, pendant ce siècle presque exact, entre 1391 et 1492, c'est-à-dire c'est le moment où, par pans entiers des quartiers ou des groupes de population juive se convertissent au christianisme sous l'effet de la menace, de la contrainte, puis plus tard un peu de la conviction. Et à l'intérieur de la communion chrétienne, où se rencontrent des vieux chrétiens et des nouveaux chrétiens, on refabrique une altérité à l'intérieur de cette communion chrétienne, en reprochant aux chrétiens d'origine juive, non pas seulement et progressivement de moins en moins ce qu'ils croient ou ce qu'ils ou les gestes qu'ils font, ou les prières qu'ils adressent à Dieu, mais simplement leur généalogie. Oui, c'est avoir ça, le mauvais sang.
C'est la première fois vraiment que c'est formulé comme tel. C'est quelquefois à quatre générations d'écart. Oui. Thérèse d'Avila, qui est petite fille de converti, en fait, est dite conversa, même trois générations après. Oui. Et ce que vous dites, et c'est une idée très forte, c'est en fait le racisme fait appel à un élément biologique pour freiner les processus de mobilité sociale, c'est-à-dire qu'en fait, il s'agit, en injectant du biologique et du naturel, on glace le temps.
Exactement. C'est-à-dire, je pense que le raciste est quelqu'un qui sait que la société bouge, mais qui veut être le maître du rythme. Voilà. C'est ça, pour moi, la définition de la politique raciste. Et la manière de glacer, comme vous le dites, la mobilité, ça consiste à assigner les caractères sociaux à un substrat naturel. Mmh. Mais, à la fin des fins, les racistes savent bien que, si ce n'est tout maintenant, un jour, ceux qui sont à l'extérieur seront à l'intérieur du cercle. Mmh. Simplement, il veut être le maître de la porte et le maître du rythme. Voilà. Je crois que c'est ça qui est vraiment le cœur de la pensée raciale. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que on voit bien que les poussées racistes particulièrement spectaculaires. Alors, si on parle de la question noire, par exemple, bon, d'une part, moi, je fais partie des historiens qui pensent que le racisme contre les Noirs est le fruit de la déshumanisation dont ils ont été l'objet dans cette monstruosité qui a été la traite négrière. Mmh. C'est comme ça que ça s'est fait. Bon, ensuite, la sortie de la condition esclave n'en fait pas pour autant des citoyens. Mmh. C'est là que le racisme intervient aussi, c'est-à-dire pour freiner le mouvement par lequel un descendant d'esclave peut devenir un citoyen américain.
Oui, parce que plus les choses bougent, et plus il faut les contrôler, en fait.
Exactement.
Le racisme va avec la mondialisation, d'une certaine manière. On va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Schraub.
Merci à vous.
If I have to beg or borrow, life goes on. If you tell a lie, nothing lasts forever. If we fuss and fight, life goes on. Until you're dead. Things eat the brains in your head. Always is a lie.
Oh, yes, yes, yes.
It's not wrong, baby, to cry. The only thing to do is just be true to you. Before you decide to blame,
no.
Check yourself, baby. Don't play no game.
Jean-Frédéric Schraub, je rappelle le titre de votre livre « Nous avons tous la même histoire, les défis de l'identité » aux éditions Odile Jacob. Merci d'avoir été là.
Merci Marc Wetzmann.
C'était Signe des temps, une émission de Marc Wetzmann assistée de Aurélie Marsay avec à la technique Dali Iyaha et à la réalisation Luc-Jean Reynaud.
Love is you and I.
Always, 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 always.
Talking face to face.
Look at me, look at me, oh, look at me.
Love is unforgettable.
I can't forget it.
Love is fine.